Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». La singularité, ressource ultime face à l'adversité. Lorsque les choses vont mal pour nous et que l'incertitude est partout, nous sommes sur la défensive. La tentation est de nous protéger. Pour cela, nous nous faisons discrets. Nous minimisons notre singularité et nous nous conformons au modèle dominant qui, eux, semble réussir. Et si, face à l'adversité, il fallait au contraire affirmer sa singularité pour se rétablir? C'est ce que suggère un épisode peu connu du redressement d'Apple en 1997. Lorsqu'en 1996, Steve Jobs reprend les rênes d'Apple qu'il avait cofondé 20 ans avant et dont il avait été viré sans ménagement en 1985, l'entreprise est exsangue. Sa part de marché est devenue négligeable, elle n'a plus d'argent ni de projet de développement. Alors qu'elle avait lancé la révolution du PC en 1977 et connu une trajectoire fulgurante, elle n'est plus qu'une note de bas de page dans le paysage technologique mondial. Le redressement que Jobs opérera et qui fera d'Apple à nouveau un des grands leaders de la technologie est désormais un cas d'anthologie de l'histoire des entreprises. Un épisode illustre la façon dont Jobs s'est appuyé sur la singularité d'Apple dans sa stratégie de redressement, que j'évoquais dans un article précédent. Peu après son arrivée, il apprend que l'agence de communication BBDO a proposé à Apple une campagne de marque avec le slogan « We are back », « Nous sommes de retour ». La direction d'Apple y est favorable, mais Jobs s'y oppose, bien qu'il ne soit encore à l'époque officiellement que conseiller du président. Pour lui, le slogan est stupide car Apple n'est pas encore de retour, loin de là. Penser qu'Apple est de retour, c'est se bercer d'illusions car la réalité, à ce moment-là, est qu'Apple lutte encore pour sa survie. Personne ne le croira. L'affirmer, c'est mentir et se décrédibiliser. C'est persister à vivre dans une bulle, ce que Apple fait depuis des années. Par son opposition, Jobs impose un principe de réalité avec laquelle il ne faut pas tricher. Il fait accepter une campagne très différente qui fait figurer de grands pionniers, de grands artistes, Einstein, Bob Dylan, Gandhi, etc. Chaque portrait est affiché avec un slogan simple, « Think different », pensez différent, la faute de grammaire étant volontaire. Pensez différent. Au premier abord, cela paraît ridicule. Pour une entreprise qui n'a plus que quelques pourcents de parts de marché, dont les produits sont obsolètes et qui n'a rien fait d'innovant ni de différent depuis bien longtemps. L'auteur de ces lignes, pourtant plutôt fan de la marque à l'époque, se souvient de son malaise à la vue de ces grandes affiches. Différent en quoi? Quelle arrogance, quelle suffisance et surtout, quel aveuglement. Et pourtant, ça marche. La campagne fait beaucoup parler d'elle et elle permet de remotiver les fans de la marque. Le dernier carré, en quelque sorte, car elle touche directement un trait identitaire d'Apple, à la fois pionnier et différent, qui trace sa propre voie. C'est un trait des marques fortes de résister au temps et de faire qu'elles nous parlent malgré les aléas de la vie et les passes difficiles qu'elles traversent. L'intelligence de cette campagne est en effet de se reconnecter à l'identité de l'organisation et de repartir du réel qui est que, pour un noyau certes réduit de gens, Apple symbolise encore la différence. L'entreprise s'est construite dans les années 70 et en particulier dans les années 80 contre IBM, qui symbolisait la grisaille des ordinateurs compliqués à utiliser. Lorsqu'IBM a décliné, Apple a substitué Microsoft à IBM comme nouvel adversaire. Apple était cool, Microsoft et IBM étaient ringards. Certes, Apple n'est plus cool depuis longtemps, mais le trait identitaire est resté, il parle encore aux gens. Par cette campagne, Apple remotive ses fidèles, non pas cette fois en s'opposant au reste du monde, en se trouvant un nouvel ennemi, comme avant l'arrivée de Jobs, mais en repartant de qui l'entreprise est, de sa flamme intérieure, même si elle n'est plus alors qu'une toute petite flamme bien fragile. Qu'importe si le reste du monde rigole et s'il a plein de raisons de le faire, ce sont des feux extérieurs que Jobs ignore. L'objectif de ranimer la flamme intérieure est atteint. Ainsi, dans l'adversité, et l'entreprise est alors au bord du gouffre, Jobs ne minimise pas la singularité d'Apple. Au contraire, il l'affirme comme une base, comme un ancrage pour se redresser. Il fait appel à l'identité profonde de l'entreprise, qui est probablement l'une des dernières ressources qu'il lui reste, mais c'est aussi la plus importante. Ce mouvement de retour vers soi dans l'adversité permet de résister aux feux extérieurs des fausses évidences. À l'époque, chaque expert y allait en effet de son avis sur ce qu'Apple devait faire pour survivre, et Jobs les a tous ignorés. Affirmer sa singularité alors qu'on est en grande faiblesse est contre-intuitif. Pourtant, c'est parce qu'Apple est en situation de faiblesse que l'intransigeance identitaire est fondamentale. Car si l'identité cède, alors il ne reste plus rien. Ce n'est pas sans rappeler un épisode célèbre de la Seconde Guerre mondiale. Inquiet de la très mauvaise relation qu'entretenaient Roosevelt et De Gaulle, Churchill reprocha à ce dernier sa rigidité. Il lui recommandait d'être plus souple, de faire plus de concessions, de tendre la main, notamment auprès de transfuges de Vichy. « Je ne peux pas, » lui répondit De Gaulle, « je suis trop faible. » L'affirmation de sa singularité n'est en effet pas réservée aux plus forts, au contraire. C'est l'arme ultime du faible dans l'adversité. C'est souvent tout ce qu'il reste, mais c'est aussi la ressource ultime et, pour peu qu'elle soit défendue et affirmée, la clé du rétablissement. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzahn.com. À bientôt.